La Compagnie des Œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. On le croit l'auteur d'un seul texte publié à 27 ans, quelques mois avant sa mort au début de la Première Guerre mondiale. Mais Alain Fournier n'en était pas alors à son coup d'essai. Il avait mûri sa grande œuvre depuis plusieurs années dans des nouvelles, des lettres et des esquisses de romans qui se retrouvent à présent dans la bibliothèque de la Pléiade sous le haut patronage de Philippe Berthier. Et justement, Philippe Berthier viendra demain nous raconter comment est né ce grand môle. Il va nous dire par quelle péripétie ce texte est passé. Et il évoquera également d'autres textes qui constituent l'œuvre de jeunesse, si l'on peut dire, d'Alain Fournier. Mercredi, nous nous intéresserons au contenu même du livre, à ce roman qui peut se lire dès l'adolescence, mais dont le double fond fascine durant toute la vie. Tiphaine Samoyeau nous en livrera les principaux secrets. Enfin, jeudi, c'est de la lecture et des œuvres littéraires présentes au sein du roman lui-même, dont nous parlera Sylvie Sauvage, une bonne façon de remonter aux sources de l'imaginaire du jeune écrivain. Et aujourd'hui ?
Fournier, il faut avoir vu une photo de lui. N'est-ce pas ? Il avait un regard absolument extraordinaire qui regardait toujours au-delà de ce qu'il voyait et qui voyait toujours au-delà de ce qu'il regardait.
Le regard bleu ?
Plutôt gris que bleu.
Gris vert même.
Gris vert et alors pailleté d'or comme les prunettes de Cléopâtre. Non, vraiment, le plus étonnant regard que j'ai jamais vu. N'est-ce pas ? Et cette aptitude à regarder ailleurs, à vivre ailleurs.
Mais est-ce une aptitude ou une tragédie que de vivre ailleurs, comme le disait Alexandre Gall, l'un des camarades de Fournier du temps du lycée La Canale ? Eh bien, c'est l'une des questions que nous allons nous poser jusqu'à jeudi, tandis qu'aujourd'hui on commence avec la biographie. Grâce à vous, Ariane Charton, bonjour à vous.
Bonjour.
Et merci d'être là. Vous avez publié le folio biographie consacré à Alain Fournier. Après avoir déjà publié un Musset et un Debussy dans la même collection des éditions Gallimard, Alain Fournier avec un tiret, ça n'était pas, commençons par là, le nom de naissance de cet écrivain. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de ce patronyme ?
Alors, son nom, son prénom, c'est Henri, et son nom de famille, c'est Fournier. Et en fait, rapidement, lorsqu'il a commencé à rêver un peu de littérature, il lui a paru essentiel de prendre un pseudonyme. D'abord parce qu'Henri Fournier est un nom assez commun, et surtout, il y avait un coureur cycliste qui devenait un coureur automobile qui était devenu très connu, qui s'appelait Henri Fournier. Voilà, donc il lui a paru la nécessité. Alors, il a repris Alain, il y a plusieurs raisons. À Alain, notamment, c'est un hommage à un poète qui appartenait à la cour de Charles VII, Henri Chartier.
Voilà. Et Charles VII qui était installé à Bourges.
Qui était installé à Bourges, voilà.
Donc dans la région.
Dans la région natale d'Alain Fournier, puisqu'il est né à la chapelle d'Angilon, qui est un petit village qui se situe à 15-20 km de Bourges. Et puis, l'école où il a grandi, c'était à Épinol-le-Fleuriel, donc qui est devenu Sainte-Agathe dans le roman, qui là est à une cinquantaine de kilomètres de Bourges au sud du département, donc proche avec l'Allier. Et puis, il passait une partie de ses vacances à Nancy, qui était là du côté de chez son père, qui est pareil à une cinquantaine de kilomètres de Bourges en allant vers la Sologne.
Toute la région était
voilà.
Sa région.
Donc c'est vrai que lui, Bourges est un petit peu la ville centrale, qui d'ailleurs a une importance dans le Grand Maulne et puis où il va passer son bac. Et c'est vrai qu'il fait des allers-retours entre le nord et le sud du département, ce qu'il reproduit d'ailleurs aussi dans le Grand Maulne. Voilà, donc il y a un peu ce choix d'Alain Fournier. Alors il n'a pas mis tout de suite un trait d'union. Les premiers textes qu'il signe à Alain Fournier, c'est en 1905. C'est des textes qui ne paraissent pas tout de suite, mais c'est en 1905, bah, lié en fait à, on en parlera après, à sa rencontre avec Yvonne de Quièvrecourt, donc qui cristallise aussi vraiment son désir d'écrire. Et il va rajouter ensuite un trait d'union entre Alain et Fournier au moment où il va faire paraître ses premiers textes en 1907.
C'est aussi parce qu'il aime l'euphonie de nom-là, voilà, parce que c'est quelqu'un qui fait très attention
à l'esthétique des choses. À l'esthétique, voilà. Alors des fois, après, il aura signé Henri Alain Fournier, comme si donc justement Alain Fournier était devenu son nom. Voilà, donc on trouve des dédicaces, par exemple, au Grand Môle, où c'est signé H Alain Fournier ou Henri Alain Fournier. Après, ses proches, bien sûr, l'ont toujours appelé Henri. Hein.
Il y a du Alban aussi, bon, mais enfin, on va pas détailler tous les prénoms.
C'est un petit peu long.
Mais c'est en fait Henri Alban Fournier,
voilà,
qui naît en 1886, donc à la chapelle d'Angillon.
Angillon, voilà. Ouais. La maison existe toujours, d'ailleurs.
C'est un musée, c'est ça ?
La maison, non, elle appartient encore à la famille d'Alain Fournier. Il y a un musée, une sorte de petit musée à proximité, voilà, qui s'est fait d'ailleurs en dehors de la famille. Et puis après, bah, il y a le musée école à Épinal-le-Fleuriel, qui est donc la classe et puis la maison où a vécu Alain Fournier, vraiment, bah, principalement presque toute son enfance, quoi. En tout cas, jusqu'à son certificat d'études. Après, ses parents, de toute façon, ont été mutés ailleurs. Mais voilà, c'est donc, on peut encore visiter l'endroit où il a commencé à apprendre à lire, hein, par exemple. Hein, voilà. Puis du coup, bah, un peu découvrir cette école de la Troisième République, le grenier qui lui a inspiré après le grenier dans le Grand Môle.
Là où le Grand Môle va chercher le feu d'artifice.
Voilà, donc il y a encore ce grenier. Ils ont vraiment aménagé ça de façon aussi presque un petit peu féerique, justement, pour retrouver un peu l'esprit d'Alain Fournier. Hein. Donc j'en conseille la visite à ceux qui aiment, qui s'intéressent à Alain Fournier.
Oui, parce qu'on peut se replonger dans l'enfance de Fournier. Oui. Une belle enfance, d'ailleurs, que la sienne.
Bah, c'est justement, d'ailleurs, peut-être son drame. Hein, c'est qu'il
trop belle enfance.
C'est peut-être une trop belle enfance et que son déchirement intérieur, bah, il commence au moment où il passe à l'adolescence et qu'il s'aperçoit que cette enfance, elle est finie. Et ce qui le terrifie encore plus, et notamment quand il commence ses études supérieures, donc à la Canal, c'est la crainte de ne plus arriver à parler de cette enfance, justement, de perdre cette sensibilité qu'il avait enfant, ce regard un peu naïf, simple, voilà, sans le fatras un peu intellectuel qu'on peut avoir. Et ce que, après, Isabelle Rivière parle de la secrète beauté des choses, voilà, et qu'il avait enfant, et voilà. Donc c'est vrai que c'est aussi une tentative pour un peu rattraper cette enfance, essayer de la saisir.
De la figer.
De la figer,
et de la garder par-devers lui.
Oui.
Ce qui a figé aussi un petit peu, peut-être, l'image qu'on a de Fournier, c'est justement sa sœur.
Oui.
Ils ont une relation très très proche avec Isabelle. Vous pouvez peut-être nous en dire un petit mot, mais ensuite, après la mort Fournier.
Voilà, ils ont 3 ans de différence, donc ils sont élevés ensemble. Et c'est vrai qu'elle raconte, elle va publier 2 livres sur son frère. Le premier, c'est vraiment un livre vraiment de souvenirs, notamment sur l'enfance. Elle parle quand il dévore les livres de prix, puisque tous les ans, on décerne des livres de prix. Et puis, ils arrivaient, bien sûr, chez les instituteurs, chez les Fourniers. Et donc, ils lisaient les livres, ce qui terrifiait d'ailleurs leur mère. Ils disaient, mais vous passez votre journée à lire, vous allez vous abîmer les yeux. Enfin, voilà.
Pourtant, c'était des instituteurs, quand
même. C'était des instituteurs, mais ils étaient, ils avaient un petit peu peur de cette envie de leurs frères, de leurs enfants de lire. Donc, c'est un peu toujours un moment de s'évader. Voilà. Et puis, il y a les voyages annoncés. Voilà. Il y a ce domaine mystérieux. Elle pense que c'est à tel endroit en Sologne. Voilà. Donc, une espèce de reconstitution un peu de cette enfance. Et donc, elle en parle très bien. Après, elle a eu une relation, juste une admiration, une adoration, même presque pour son frère, qui s'atténue peut-être après un petit peu parce qu'elle se marie avec Jacques Rivière. Donc, il y a un autre homme dans sa vie. D'ailleurs, elle le dit un moment, je vais plus t'aimer exactement de la même façon puisque maintenant j'ai mon mari. Et quand après elle perd les 2 hommes de sa vie, je pense qu'elle, de nouveau, elle revient vers Alain Fournier, où là elle publie, bien après la mort d'Alain Fournier, Vie et passion d'Alain Fournier, où justement elle donne une image un peu biaisée quand même de son frère.
Biaisée comment ?
Elle en fait quelqu'un de profondément chrétien, comme disons-le, alors que pour chez lui, il y a une lettre où il dit qu'il se sent pas chrétien. Il y a une quête, bien sûr, de la religion qui la ramène à l'enfance, parce que ses souvenirs d'enfance sont liés aussi à sa mère, et par exemple, au moment où ils allaient à la messe ensemble, il décrit les gants qu'elle mettait, la façon dont elle est habillée, donc il y avait quelque chose de cette grâce de l'enfance qu'il perd. Voilà, il perd un peu la foi, en fait, hein, faut vraiment le dire. Il essaye de la reconquérir, mais c'est beaucoup plus difficile, parce que quand on a perdu cette foi qui allait avec l'enfance, qui allait avec la grâce de l'enfance. Or, Isabelle Rivière est restée quelqu'un de très catholique et qui, je pense, avait du mal à admettre que ça avait été beaucoup plus compliqué dans la tête de son frère. Elle a aussi un peu une sacralisation aussi pour l'histoire avec Yon de Kievrecourt, pour le grand môle, qui est aussi son enfance, hein, voilà, qui la partage. Ce qui fait qu'elle a eu tendance à être très sévère après avec le reste de la vie d'Alain Fournier, notamment sa relation avec Madame Simone. Donc c'est vrai que le deuxième livre est un petit peu, voilà, donne une idée un peu fausse, un peu aussi un peu niaise, un peu presque, malheureusement, de son frère, alors qu'il est un être beaucoup plus compliqué, qui est des fois d'ailleurs très cruel aussi, elle le dit, hein, d'ailleurs aussi, voilà, très complexe, et dont l'image ne doit pas se limiter au grand môle qui sera un livre pour adolescents.
Voilà, est-ce que vous avez l'impression aussi que la recherche universitaire, ce qui a été écrit sur Alain Fournier, a longtemps emboîté le pas au témoignage d'Isabelle Rivière? À quand finalement on peut dater la relecture plus actuelle d'Alain Fournier, de sa vie, de son
œuvre? Je pense que la publication de la correspondance avec Jacques Rivière a donné une image un petit peu plus plus précise, plus nette, plus complexe aussi d'Alain Fournier. Alors après, je ne sais pas s'il y a beaucoup vraiment de gens qui ont lu cette correspondance, qui est pourtant admirable, mais voilà, je pense qu'après, je pense aussi à l'édition de Tiphaine Samoyau du Grand Môle, où justement on a essayé aussi un petit peu de dépoussiérer ça. C'est pas un livre qui se passe sous la Troisième République, voilà, c'est un livre beaucoup plus moderne qu'on le dit, même dans l'écriture. Moi j'avais participé justement en 2013 à un colloque sur où il y avait Proust avec du côté de chez Swann et le Grand Môle, et de montrer la modernité un peu de ces deux écritures.
Le thème de la mémoire qu'on
retrouve. De la mémoire, voilà, il y a vraiment des choses très troublantes. Alors bon, malheureusement, apparemment, Proust ne parle pas du Grand Môle, et Alain Fournier n'a sans doute pas eu le temps de lire du côté de chez Swann. Il y a vraiment, en tout cas, une recherche justement sur le travail de la mémoire, sur les sensations, la ressouvenance qui les relie, alors qui est sans doute aussi dans l'air du temps. Hein.
Il y avait toujours deux garçons qui arrivaient avant les autres pour allumer le poêle en hiver. Il y avait beaucoup d'enfants qui étaient de la campagne, qui étaient à 6 kilomètres de là, à la Bouchapte, et qui apportaient leur déjeuner, et qui déjeunaient, le faisaient chauffer sur le poêle quand c'était l'hiver. Tout ça, c'est décrit dans le Grand Môle, quand il dit qu'après 4 heures, n'est-ce pas, on désignait deux élèves pour balayer la classe. Et que, vous vous rappelez, mon père transportait le feu du poêle dans la salle à manger. Il y avait une beaucoup plus grande intimité entre le maître et les enfants. Et d'ailleurs, mon père les emmenait à la pêche, les emmenait à la baignade. Tout ça est dans le Grand Môle, d'ailleurs.
La Compagnie des œuvres sur France Culture avec ce témoignage d'Isabelle Rivière. On en parlait à l'instant à Ariane Charton, la sœur donc de Alain Fournier, qui raconte cette école du Grand Môle, qui est aussi, dit-elle, l'école que son frère a connue. Est-ce que on peut la croire? Est-ce qu'il faut nuancer un petit peu ce propos?
Oui, en tout cas, tout ce qu'elle dit est vraiment sur leur enfance ensemble. Voilà, elle est vraiment un témoin, le premier, le seul témoin de cette période, hein, puisque même Jacques Rivière, il le connaît après. Voilà, et elle est quand même très proche de la vérité. Les témoignages après se recroisent avec ce qu'on sait d'une école un peu de campagne de la Troisième République. Puis tel que Alain Fournier justement en parle dans sa correspondance avec Jacques Rivière. Il y a énormément de lettres où il fait des références à cette vie d'écolier comme ça à Épinal-le-Fleuriel. Donc ça se recoupe avec le témoignage d'Isabelle Rivière.
Donc avec son père, qui est son instituteur aussi.
Voilà, et puis la mère qui s'occupe de la plus petite classe, voilà. Donc après, elle passe adjoint du père de Monsieur Fournier. Voilà, donc ils vont rester. Après, ils ne seront pas toujours dans la même classe, mais là, à un moment, effectivement, ils forment un peu le couple d'instituteurs important aussi dans le village, hein, voilà.
Donc la mère a été un petit peu atteinte de bovarisme, disons.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur sa personnalité?
Oui, c'est assez drôle quand même de voir aussi que les deux parents, d'ailleurs, sont des êtres quand même qui sont un petit peu en marge, son père, il fait toujours des rêves un peu d'évasion. À un moment, il dit qu'il va demander une mutation dans les colonies. Enfin voilà, il leur dit l'année prochaine, hop, on s'en va en Algérie.
Donc, le désir d'ailleurs, c'est.
Le désir d'ailleurs vient quand même. Partagé. Et d'ailleurs, après, il va avoir une vie, il va aller un peu de pension en famille, et puis après, il va finir par revenir chez sa fille. Mais voilà, il y a un moment où il ne vit plus d'ailleurs avec Madame Fournier. Et Albanie Fournier, bah, c'est pareil, elle a étudié, elle a lu des romans un peu d'amour. Et c'est vrai qu'elle a rêvé comme toute jeune fille, à un peu un grand amour, à beaucoup de lectures. C'est peut-être pour ça d'ailleurs aussi qu'elle a un peu peur que ses enfants lisent beaucoup. Parce qu'elle s'est aperçue après que la réalité, elle n'était pas celle qu'il y avait dans les romans.
Hein. Voilà. Alors, quelle est leur relation au fils et à la mère? Parce qu'on a l'impression qu'ils sont comme ça extrêmement proches.
Oui, il y a vraiment quelque chose de très proche. Il y a une fascination d'Alain Fournier pour sa mère. Donc, je vous disais tout à l'heure, quand les épisodes, justement, il va à la messe, qui sont d'ailleurs un instant qu'il a un peu privilégié avec sa mère, puisque Monsieur Fournier, lui, n'est absolument pas autorisé à aller à la messe, hein, puisque il y a cette séparation entre l'église et puis l'école. Et donc,
instituteur de la Troisième République.
Voilà. Donc, il faut vraiment qu'il n'ait pas, il y a un moment où discrètement, ils reçoivent le curé chez eux, mais il y a un moment, il a été dénoncé et tout ça. Il aurait pu être vraiment radié de l'éducation nationale s'il y avait eu des plaintes. Donc c'est un moment qu'il a avec sa mère. C'est un moment aussi où, comme un petit garçon, il est fasciné par cette première femme dans sa vie. Et voilà. Et très souvent, quand il va parler d'Yvonne de Quièvrecourt, au tout début, notamment dans ce long texte qui s'appelle À travers les étés, la personnalité d'Yvonne de Quièvrecourt, elle est profondément liée à la figure maternelle. Voilà. Après, justement, il y a aussi cette perte quand il va devenir adolescent et adulte, il va être beaucoup plus critique à l'égard de sa mère, qui elle a sans doute aussi vécu, qui a eu des déceptions, des choses comme ça. Et voilà, après les tensions seront beaucoup plus vives. Et je pense qu'il y a aussi l'idée qu'il y a aussi une perte de la grâce maternelle, elle est perdue aussi parce qu'il devient un adulte plus critique à l'égard de ses parents.
Et puis le petit rituel de la religion,
oui.
Quand il disparaît, c'est aussi quand même une perte.
Oui, 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 tout à fait. Alors il essaye de le poursuivre un peu quand il va à Brest, hein, puisqu'il va, aller à la préparation pour l'école navale, où on l'appelle le religieux Fournier d'ailleurs, donc il est encore très croyant. Voilà, mais il est justement en ce passage entre la fin de l'enfance et puis l'adolescence. Et puis voilà, après il y a une perte de ça, et donc c'est sans doute lié aussi à la figure de la mère qui s'éloigne, parce qu'il devient des pendant, parce qu'il a un autre jugement et que quelque chose se brise aussi dans cette admiration de petit garçon. Hein, voilà.
Le paradis perdu, c'était donc le paradis de l'enfance, mais c'est aussi un petit peu le paradis du Berry,
oui.
Le paradis de cette région-là en particulier. Je vous propose justement d'entendre un extrait du Grand Maulne où on entend un petit peu l'importance de la nature.
On était à la fin du mois d'août, au déclin de l'été. Déjà les fourreaux vides des châtaigniers jaunis commençaient à joncher les routes blanches. Le trajet n'était pas long. La ferme des Aubiers, près du Cher, ne se trouvait guère qu'à 2 kilomètres. Que les bords du Cher étaient beaux. Sur la rive, où l'on s'arrêta, le coteau venait finir en pente douce et la terre se divisait en petits prés verts, en saulaies, séparés par des clôtures comme autant de jardins minuscules. De l'autre côté de la rivière, les bords étaient formés de collines grises, abruptes, rocheuses, et sur les plus lointaines, on découvrait parmi les sapins de petits châteaux romantiques avec une tourelle. Nous étions arrivés en ce lieu par un dédale de petits chemins, tantôt hérissés de cailloux blancs, tantôt remplis de sable, chemin qu'aux abords de la rivière, les sources vives transformaient en ruisseaux. Au passage, les branches des groseilliers sauvages nous agrippaient par la manche, et tantôt, nous étions plongés dans la fraîche obscurité des fonds de ravins, tantôt, au contraire, les haies interrompues, nous baignions dans la claire lumière de toute la vallée. Nous nous installâmes sur une pelouse, dans le retrait que formait un taillis de bouleaux. C'était une grande pelouse rase, où il semblait qu'il y eût place pour des jeux sans fin.
Alors, c'est un extrait du Grand Mône qui était lu ici par Jean Topard. Qu'est-ce que la nature, Ariane Charton, peut bien représenter pour celui qui va devenir cet écrivain aussi un peu de la nature quand même, Alain Fournier?
Oui, c'est l'environnement dans lequel il vit, hein, dans lequel il naît dans les 10 premières années de sa vie, il vit à la campagne. Donc Épinol-le-Fleuriel, qui est un petit village, et puis ensuite quand ils vont à la chapelle d'Angillon et à Nancy, avec la Sologne, hein, qui est donc composée essentiellement de bois, ce qui est encore le cas aujourd'hui, et c'était à l'époque encore plus rural. Le travail des paysans, donc lié à la nature voilà la fascination.
Mais en même temps, c'est un dandy un peu. Est-ce qu'il est proche de quelle manière est-il proche de la nature, des paysans?
Alors il l'est quand il est enfant, parce que il va justement à la pêche, il va se baigner. Donc là, il y a une approche assez spontanée de la nature puisque c'était un enfant. Et après, effectivement, il la regarde un peu comme quelque chose qui lui devient plus étranger parce qu'il est allé à la ville, parce que justement, comme je disais, il a son regard a mûri. Et il y a peu cette difficulté après à appréhender la nature telle qu'il l'appréhendait quand il était enfant. Quand il retourne vers Nancy ou à la chapelle d'Angillon durant les étés, par exemple quand il fait son service militaire ou pendant ses études à la Canale, il a un regard plus distancé avec la nature qui fait partie un peu de cette mélancolie. Et en même temps, il est arrivé quand même à retrouver le regard d'enfant qu'il avait sur cette nature. Très sauvage, hein, notamment en Sologne, avec justement ces petits châteaux dont parlent ces bois, avec les chasses. Par exemple, il va encore à la chasse, il participe aux vendanges, des choses comme ça. Donc les travaux de la campagne, et la campagne en elle-même dans les promenades, il fait beaucoup de vélo, compte aussi, mais c'est vrai qu'après, à l'âge adulte, il a un regard d'homme qui connaît aussi la ville, qui a vécu, qui a plus ce regard d'enfant qui s'émerveiller d'un papillon, hein, par exemple.
Est-ce que la nature, c'est l'espace du jeu, c'est l'espace de la plénitude? En fait, la nature, c'est le sentiment que l'on ressent ou que ressent Alain Fournier, oui, quand il se promène dans la nature.
Oui, c'est ça. Puis il a le sentiment d'être sans doute en cohérence avec le reste du monde, alors qu'ensuite il aura toujours ce sentiment un peu d'être exilé, d'être tout seul dans le, d'être voilà, que personne n'arrive vraiment à le comprendre. Alors que quand il est dans cette nature qui s'offre à lui, c'est d'ailleurs une vision aussi assez romantique, justement d'être dans la vie, d'être présent à la vie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, justement, il va perdre aussi en grandissant.
Alors voilà. Comment ça se passe d'ailleurs quand il quitte le Berry pour aller à Paris, oui, au lycée Voltaire, du côté de la place de la République,
oui,
parce que c'est au départ un assez bon élève. Et
oui,
on a l'impression déracinement va faire de lui un élève, si ce n'est moyen, en tous les cas pas très motivé.
Alors oui, parce qu'il finit premier du canton au certificat d'études, donc il va au lycée Voltaire à Paris comme collégien. Là, il continue à avoir quand même de très très bons résultats, et puis il décide donc d'aller à Brest pour préparer l'école navale, préparer le Borda, hein, qui était le vaisseau un peu école.
Donc là, il s'agit...
Là, c'est vraiment un déchirement, parce que Paris-Bourges, c'est en train, ça se fait quand même. Et puis, il était dans une pension de famille, qui était liée aussi à sa famille. Il pouvait comme rentrer à chaque vacances scolaires. Là, quand il va à Brest, il y a un moment où de septembre à Pâques, il ne rentre pas en Berry. Et puis, Brest, c'est complètement différent comme ambiance du Berry. C'est la mer, donc c'est l'évasion. Et en même temps...
C'est la caserne aussi.
C'est la caserne, voilà, parce que c'est des réveils à 6h du matin, c'est travailler jusqu'à 21h. C'est uniquement 2 heures de récréation pour des enfants qui sont... Bon, lui, il est au niveau de... Il saute la classe de troisième, donc il est au niveau de seconde. Donc c'est à la fois ce rêve d'évasion et en même temps un déchirement profond de sa vie d'avant. Et là, il commence, au fond, à décrocher, hein, d'une certaine façon. Donc il abandonne d'ailleurs la préparation à Brest en cours d'année.
Parce que finalement, les voyages sur la mer, c'est pas aussi fantastique qu'on en a.
Oui, puis là, je pense que c'est tellement dur, il se sent là, il y a vraiment déjà ce qu'il est devenu adolescent, et c'est tellement loin de sa famille, de sa vie d'avant, qu'il y a vraiment quelque chose. C'est un peu comme si c'était quand même infligé une sorte de défi aussi, cette classe à l'école navale à Brest. Il y a quelque chose d'incompréhensible, parce que ça vient vraiment de lui. Ses parents sont doute doute même se dire qu'ils n'allaient pas le voir pendant des mois et des mois. C'était assez sans doute douloureux aussi pour eux, pour sa sœur. Voilà, donc ils ont les lettres.
Il y a quelque chose d'héroïque en fait.
Oui, voilà. Je pense qu'il va d'ailleurs reprendre après avec Franz de Galais. Hein, voilà, c'est à la fois ce désir de s'évader et en même temps, pour s'évader, il faut passer par cette école navale. Et il y a un moment, il ne peut plus. Puis il commence quand même à lire de plus en plus et à se dire que c'est peut-être pas là non plus qu'est son avenir. Hein.
Donc le voilà retourné à Paris, oui. Cette fois au lycée Henri IV, il ne va pas y rester très longtemps.
Oui, voilà, il y reste un mois.
Il redescend à Bourges, passer sa classe de philosophie, c'est-à-dire oui. Sa classe de terminale. Il a son bac en 1903 et puis là, retour donc en région parisienne. Cette fois, l'idée c'est d'intégrer l'école normale supérieure, mais d'abord il faut faire les fameuses classes préparatoires.
Voilà, donc il va à la Canale, comme énormément d'élèves de province. Là, il continue, il a eu le bac, pas brillamment, mais correctement, sachant plus qu'il avait quand même que sauté une classe, hein, il n'a pas fait cette classe de troisième. Voilà, donc il entre à la Canale, et là, effectivement, il est pris entre ses rêves de littérature, ses lectures, et puis l'apprentissage scolaire, universitaire, qui lui déplaît, et c'est là qu'il commence vraiment à décrocher avec les études.
Ça doit être idiot et rasant tout ce que je t'ai raconté. J'aimerais que tu ne le trouves ni idiot ni rasant. Toi qui as paru t'intéresser quelquefois à des souvenirs de ce genre très personnel et dont tout mon cœur est fait après tout. C'est le rêve de trouver un ami qui puisse vibrer à votre passé à vous, à votre vie d'autrefois et d'hier, qui puisse s'y intéresser, qui veuille s'y intéresser. Est-ce possible? Je crois qu'on cherche cela surtout en amour et qu'on ne le trouve guère. Parce que s'il y a un rêve ou deux qui collent exactement au vôtre, il y en a tant d'autres qui ne collent pas et passent près des vôtres sans s'y arrêter. Je suis si seul. Et tout le jour, ça m'a tenu compagnie d'avoir à te parler.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et voilà, il y a quelque chose quand même qu'il trouve à la Canale, c'est peut-être une des choses les plus importantes de sa vie. C'est un ami, un vrai ami, le premier vrai ami.
Ah oui, c'est son unique grand ami. Hein. Il dira de Jacques Rivière que c'est l'incomparable compagnon de sa pensée. Et c'est vraiment exact. Il y a une relation amicale de 10 ans avec ponctuée de pratiquement 400 lettres, hein, 389 lettres. Et ils vont vraiment s'aider à naître nuit Alain Fournier. Lui, Jacques Rivière, en tant que critique et éditeur. Puisqu'il se fait la main avec Alain Fournier. Donc il y a vraiment une relation très fraternelle et de grandir ensemble intellectuellement.
C'est un petit peu Montaigne et la Boétie.
Oui, il y a vraiment quelque chose un peu de cet ordre. Après, on pourrait dire que le mariage après d'Isabelle vient en Corse.
Donc parce qu'il faut dire que la sœur d'Alain Fournier se marie donc avec
Jacques Rivière. Voilà, quelques années après.
C'est un peu bizarre parce que au fond, c'est les deux meilleurs amis. Oui. Et la sœur de l'un d'entre eux, et finalement ça crée un espèce de triangle.
Oui, on a d'ailleurs assez peu d'éléments parce qu'ils se sont fiancés assez secrètement, Jacques Rivière et Isabelle Fournier. On a assez peu d'éléments, on a l'impression qu'il y a eu peut-être un coup de foudre un peu entre eux. Alors après, Alain Fournier avait bien sûr parlé beaucoup de sa sœur à Jacques Rivière, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un petit peu étrange dans cette relation après à trois, qui vient quand même un peu briser l'amitié entre Jacques Rivière et Alain Fournier, ne serait-ce que parce que Jacques Rivière se marie, construit quelque chose, est heureux, et qu'Alain Fournier reste désespérément exilé, un peu tout seul. Voilà, il y a toujours quelque chose qui lui échappe. Hein, voilà, il dit à un moment, j'ai quelque chose désespérément me réclame et toutes les routes de la terre m'en séparent. Voilà, il y a vraiment l'idée qu'il n'arrive pas à l'endroit où il voudrait être.
On peut peut-être dire un mot quand même sur Jacques Rivière, parce qu'on on le connaît à cause de la Nouvelle Revue Française, oui. qu'il a dirigé, c'était un petit peu le protégé de Gide.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut dire du parcours finalement de cet homme-là qui a écrit sans être réellement un écrivain?
Oui, bah alors lui, il est né à Bordeaux, hein, là, donc la même année qu'Alain Fournier, en 1886. Il est d'origine plutôt bourgeoise, hein, parce que son père est médecin. Mais ses grands-parents étaient, son grand-père était postier, donc il y a eu quand même une progression dans le niveau social chez son père, qui est quelqu'un de très très dur, hein, d'ailleurs. Et dès qu'il est enfant, avec ses frères et sœurs, il crée déjà une revue, bon, qui n'aura que quelques numéros.
L'avenir,
mais voilà,
ça s'appelle.
Voilà. Donc il y avait déjà, voilà, l'idée un peu de cette écriture un peu critique de la revue et puis comme un provincial, il monte à Paris pour lui aussi bien sûr préparer l'ENS. Lui il ne se présentera qu'une fois au concours et il échouera aussi à l'agrégation, donc exactement comme Fournier, il y a un parcours d'échec total, en tout cas du point de vue
ce qui est assez étonnant pour quand même ces deux personnages qui ont une telle importance dans la vie des lettres françaises.
Ouais. Bah, en fait, je pense d'ailleurs, à un moment même, Jacques Rivière dit, mais on doit être fier d'être rejeté par l'université, d'échouer au concours. C'est parce que justement, on est au-dessus de ça, on est beaucoup mieux, on est dans la littérature et plus dans cette université qui est quelque chose de pour eux de poussiéreux et qui n'est pas la vraie vie ni la littérature.
Justement, on va écouter l'extrait par Olivier Martineau d'une lettre d'Alain Fournier à Jacques Rivière qui dit un petit peu ça.
Pour lui, la femme. Et l'amour, donc, est partie intégrante.
Je suis bien là tous ces temps-ci. Si tu trouvais une formule quelconque pour me donner du courage, en voilà-moi. Mais est-ce bien utile? Est-ce même un service à me rendre? Je me dis que je suis incapable de réussir. Et réussirai-je? Cela m'avancera bien. Boursier de licence. Ou même professeur avec un engagement de 10 ans. Tout plutôt que continuer à être ainsi cloîtré physiquement et intellectuellement. Vivre avec des pions. Vivre avec des gens dont le métier est de mettre le cœur et l'âme du passé en formule. Et me torturer. M'user le crâne à tâcher d'en faire autant. Il n'y a donc pas une place quelconque qui nous laisse, puisqu'il faut trancher le mot, faire des vers. Des vers. Des pièces et des romans. Faire de l'art. Crier la vie à en mourir.
Qu'est-ce que vous en pensez de cette lettre, Ariane?
Oui, bah, elle est vraiment tout à fait révélatrice de l'état d'esprit d'Alain Fournier et puis de Jacques Rivière. Alors lui qui, effectivement, comme vous disiez, n'a pas écrit. Alors il a écrit un seul roman. Hein. Voilà, on peut plus le considérer comme un éditeur et comme un grand critique. Voilà, mais la critique, bah, c'est aussi une œuvre littéraire à part entière. Et puis, bah, aider à accoucher d'une œuvre, comme il a aidé d'ailleurs Alain Fournier à accoucher du Grand Môle, il faut avoir un sens littéraire profond.
Donc, alors ça, c'est intéressant. Parce que est-ce qu'on peut considérer que Jacques Rivière a une importance dans la genèse et l'écriture, enfin,
oui, oui,
du Grand Môle?
Oui, je pense que c'est fondamental, hein, parce qu'on trouve les premiers extraits finalement du Grand Môle, on les trouve dans la lettre du 13 août 1905 que Alain Fournier écrit à Jacques Rivière. Il est à Londres, hein, il fait un stage d'un mois comme traducteur, et on trouve un extrait qu'on va retrouver ensuite dans le Grand Môle, et petit à petit, au fil des années, d'ailleurs spontanément, il va écrire notamment des passages où il raconte son enfance, dont je parlais tout à l'heure, à Épinal-le-Fleuriel, des choses comme ça. Et c'est des éléments qu'il va reprendre pour écrire ensuite le Grand Môle vraiment concrètement, puisque Jacques Rivière, bien sûr, a gardé les lettres et qu'il y a des moments où Alain Fournier lui dit qu'il a besoin de ces lettres justement pour retrouver des passages qu'il a écrits en plus spontanément. Voilà, parce que par exemple, notamment le 13 août, il est tout seul, il s'ennuie à Londres, il passe la journée à écrire à Jacques Rivière, donc c'est vraiment une lettre fleuve et c'est écrit très spontanément. Et quand il va commencer le Grand Môle, justement, il aura une difficulté un peu à retrouver cette écriture spontanée qui est aussi quand même travaillée, hein, qui est travaillée de l'intérieur. Voilà, donc on peut dire que les lettres sont le document de base un peu de travail du Grand Môle. Et puis bah, les retours que fait Jacques Rivière aident énormément à Alain Fournier à progresser.
Oui, parce qu'ils se complètent un peu.
Oui, tout à fait.
L'un
oui.
étant plus philosophe, Jacques voilà, Rivière, oui. et puis l'autre vraiment un créateur.
Un créateur, voilà. Donc bah, des fois, Jacques Rivière envie un peu Alain Fournier de se dire, bah, toi, t'es vraiment du côté de la sensibilité, de la création. Et puis, en même temps, bah, Alain Fournier lui dit, mais il faut m'éreinter. Si ce que j'ai dit, c'est trop, c'est niais, c'est un peu sentimental, il faut me le dire. Donc, ils se complètent. Et c'est d'ailleurs assez révélateur aussi dans leur relation amicale. C'est-à-dire qu'effectivement, Jacques Rivière va aller vers Gide et Alain Fournier va aller vers Charles Péguy. Et puis, par exemple, leur approche de Claudel.
Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça montre de l'un
ben,
de l'autre?
Voilà, Gide, c'est comme on disait, hein, c'est quand même plutôt quelqu'un qui est du côté des idées, de voilà, il y a quelque chose, une portée vraiment philosophique un peu dans l'œuvre, alors que chez Charles Péguy, il y a quelque chose un petit peu de bah, qu'on retrouve parce qu'ils sont assez proches aussi géographiquement avec Alain Fournier, de ce justement un peu cette naïveté, il trouve chez Péguy la même naïveté que la sienne à l'égard aussi du monde paysan, de ce monde qui les fascine, et puis cette façon spontanée qu'a Charles Péguy d'écrire par rapport à justement Gide, qui est quelque chose de plus intellectuel. Et on retrouve bien aussi cette façon aussi de se compléter, hein, d'ailleurs, hein, qui les aide énormément, hein, Alain Fournier et Jacques Rivière, dans leur approche de Claudel. Parce qu'effectivement, ils ne lisent pas du tout Claudel de la même façon.
Mais ils l'admirent tous les deux.
Voilà, ils l'admirent tous les deux. Et il y a des échanges entre eux, justement, par lettre, sur leur lecture de Claudel, qui montrent voilà, bah justement ce qu'un grand écrivain comme Claudel peut apporter à deux esprits très différents et en même temps liés par, bien sûr, des goûts littéraires en commun.
Alors ça, c'est intéressant, et vous le racontez d'ailleurs très bien dans votre biographie, Ariane Charton, comment c'est par la lecture et par des textes que cette amitié va naître. Notamment,
oui.
il y a une espèce de moment épiphanique. Hein,
oui.
Un de leurs professeurs qui leur fait découvrir Henri de Régnier, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, le 24 décembre 1904. Donc, ils sont élèves à la Canale et il leur lit Tel qu'en songe d'Henri de Régnier, bon, qui est de la littérature contemporaine hein, pour justement la Canale, hein, qui les fait plutôt étudier Racine que Régnier. Et c'est les deux seuls élèves, en fait, à être sous le charme de ce texte.
Donc ça les rapproche énormément.
Ça les rapproche voilà, énormément, parce qu'il y a d'autres élèves qui se moquent un peu de ces textes, qui se disent mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est de la poésie contemporaine, enfin ça n'a aucun intérêt. Voilà, c'est Francis Cuvial hein, qui leur lit ça. Et puis quelques semaines après, ils vont aller ensemble voir l'opéra de Debussy, Péléas et Mélisande, et ça va vraiment bah, les lier profondément au sein de la Canale, où justement ils n'ont pas ce retour sur la littérature et l'art contemporain.
Mais c'est presque un coup de foudre que vous racontez, oui. ces espèces de moments, de souvenirs qu'ils ont en commun et qui forgent leur oui. relation.
Ah oui, il y a vraiment quelque chose, ben, vous parliez tout à l'heure de Montaigne et la Boétie, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la... Voilà, un peu là aussi de la cristallisation amoureuse. Hein, voilà, c'est de se dire, ils se retrouvent des choses en commun. Et même quand Rivière est à l'infirmerie de la Canale, il écrit à Alain Fournier, ils ne peuvent pas se voir, ils s'écrivent. C'est-à-dire que dès qu'ils sont séparés, même quelques jours, ils s'écrivent. Il y a vraiment un besoin énorme d'un échange entre eux qui est vraiment quasiment vital. Hein,
sauf quand ils vont habiter ensemble.
Sauf quand ils vont habiter ensemble, ce qui, bien sûr, malheureusement, nous prive de l'être. Ce qui leur permettait sans doute aussi de beaucoup avancer, parce que quand ils vivent ensemble, Alain Fournier...
Ils vivent ensemble parce qu'il y a eu mariage entre
voilà.
Jacques voilà. Rivière et puis la sœur d'Alain Fournier.
Voilà, et donc momentanément, le couple Rivière vit chez les Fourniers. Voilà, ça va durer que quelques mois. Voilà, c'est un moment aussi où Alain Fournier commence vraiment l'écriture du Grand Môle. Et il y a bien sûr des discussions comme ça entre les deux jeunes gens sur l'écriture. Hein, voilà.
Alors on imagine évidemment que ça crée des dissensions, cette espèce de couple à trois, on en parlait tout à l'heure. Mais qu'en est-il de la vie amoureuse à ce moment-là de Alain Fournier, parce que c'est quand même sa grande affaire,
oui.
la vie amoureuse.
Ah bah oui, effectivement. Bah justement, quand sa sœur épouse son meilleur ami, il y a quelque chose d'un déchirement, parce que lui, justement, il est dans une peine amoureuse infinie depuis cette rencontre avec Yvonne de Quièvrecourt, qui est Yvonne de Galais, bien sûr, dans Grand Maul, et qui est sans doute l'épisode capital dans sa vie. En fait, c'est à partir du moment où il rencontre Yvonne de Quiberoncourt qu'il décide d'écrire un roman. Voilà, il dit à Jacques Rivière, j'ai lâché le mot, c'est un roman. Et c'est elle qui va lui, voilà, être un peu le coup de départ d'une carrière littéraire. Pas forcément du Grand Maul, mais de cette, et c'est un amour impossible.
Voilà. C'est une étrange de oui. relation, on va le voir.
Pour lui, la femme et l'amour, donc, est partie intégrante de son univers de poésie. Et même de littérature. Ça ne veut pas dire qu'il faisait de la littérature à propos de l'amour. Il faut comprendre que c'était des jeunes gens qui étaient possédés par le désir d'écrire, et par le besoin d'écrire, qui était leur être même. Enfin. Et donc, il ne faut pas s'étonner, par exemple, qu'au moment de la rencontre avec Yvonne de Quiberoncourt sur le bateau, il s'est mis à écrire. Et nous avons ces brouillons, n'est-ce pas, ces notes griffonnées, qu'elle lui a rappelées d'ailleurs, puisqu'il l'a revue... En 1913, mariée, mère de deux enfants, elle lui dit « Mais qu'est-ce que vous écriviez dans le tramway ?» Également, le jour de la Pentecôte, il l'avait suivi dans le tramway. « Qu'est-ce que vous écriviez dans le tramway ? Je vous voyais griffonner. » Eh bien, c'est vrai, il griffonnait pendant qu'il était en train de rencontrer Yvonne de Quiberoncourt. Ça nous paraît aberrant, n'est-ce pas ? On se dit « Mais en fait, il écrivait un livre ou bien il aimait une femme ?» hein ? Mais je crois qu'il faut le comprendre. D'abord, moi je l'explique comme ceci, cette rencontre, il l'a perçue tout de suite. Avec cette lucidité immédiate sur la qualité des choses, il l'a perçu tout de suite comme quelque chose de capital dans sa vie. Et il a voulu que cette rencontre soit immédiatement notée dans ce qu'elle avait de plus important pour lui, pour que tout cela soit conservé et ensuite qu'il puisse méditer et réfléchir dessus.
La Compagnie des œuvres sur France Culture, et vous avez sans doute reconnu Ariane Charton, Alain Rivière, qui est donc le neveu oui. d'Alain Fournier, qui racontait cette rencontre un peu mythique oui. entre son oncle et puis cette fameuse Yvonne de Quiberoncourt, qui a fait basculer l'existence d'Alain Fournier, mais plutôt son existence mentale, psychique, imaginaire.
Oui, ouais, bien sûr, son imaginaire, son désir de faire vraiment une œuvre littéraire. Il a déjà écrit un petit peu avant elle, mais c'est vraiment à partir de cette rencontre qu'il commence à écrire de manière vraiment sérieuse, ce qui l'éloigne encore plus, bien sûr, des études. Elle cristallise aussi son désir d'une rencontre amoureuse parfaite, parce que justement quelques mois avant, il a rencontré une autre femme qui s'appelait Yvonne aussi, Yvonne Godoff. Il l'a suivie dans la rue. Exactement un peu le même, un peu
il
le même
harcelé, processus. Harcelé, on dirait.
Voilà, il a harcelé. Elle, c'est une jeune femme un petit peu plus, en tout cas tout à fait accessible. Il a une relation, une liaison avec elle. Hein, et quand il peut sortir de la canale, il va la retrouver. Et puis, il essaye un peu de l'éduquer. Elle, c'est en tout cas, de toute façon, une jeune fille qui n'est pas bête, hein, qui a une certaine culture. Mais il est déçu par elle, parce qu'elle n'a pas la grâce qu'il imagine. Il est dans les rêves qu'il a lus dans les romans aussi. Hein. Il rêve aussi d'une femme qui ressemblera à sa mère. Hein. À cette époque-là, il y a quelque chose de ça, d'une femme peut-être très pure, un peu intouchable. Et quand il rencontre Yvonne de Quiberoncourt, mais il a toujours dit que c'est elle qui, au fond, l'avait appelé à lui, puisque quand il descend l'escalier, il sent qu'il y a quelqu'un qui le regarde et il se retourne. Et c'est elle qui est en train de le fixer, donc il a toujours eu l'idée qu'il avait été choisi aussi pour vivre ce moment, pour rencontrer cette femme.
Là, on retrouve un rapport, non pas religieux, mais mystique, oui. d'Alain Fournier avec l'existence.
Voilà, il même parle d'elle comme d'une âme visible. Voilà, il en fait une femme presque, une beauté presque douloureuse. Enfin, il y a quelque chose de sacralisé d'emblée avec cette jeune fille qu'il aurait pu juste trouver belle. Et puis voilà, donc il y a vraiment quelque chose. Il a l'impression d'être marqué comme ça par le destin, par cette jeune femme cette jeune fille qui croise son chemin. Elle a un an de moins que lui, hein, à peine.
Donc il la suit dans la
il
rue.
Il la suit. Alors, elle sort aussi du. Ils sortent du Grand Palais, hein, qui a été construit 5 ans avant. Il a été voir une exposition de peinture. On est le jeudi de l'Ascension, hein, donc il avait congé. Et elle sort aussi de l'exposition avec sa grande tante. Et puis, ils prennent le bateau mouche, bon, qui est un transport en commun à l'époque. Donc, il les suit. Il les suit sur le bateau. Ils échangent des regards. Donc, là, effectivement, hein, ils commencent déjà à prendre des notes, des choses comme ça. Et puis, la grande tante vit 12 boulevard Saint-Germain. Donc, il suit les deux femmes jusqu'au 12 boulevard Saint-Germain. Et puis là, quand il va pouvoir, dans les jours qui suivent, il essaye de revenir devant le boulevard Saint-Germain pour voir s'il voit cette jeune fille. La veille de la Pentecôte, elle se met à la fenêtre au moment où il est dans la rue. Elle lui sourit.
Ça veut dire qu'il l'a attendue quand même longtemps dans la rue.
Voilà. Elle se met à la fenêtre. Alors, est-ce qu'elle guettait? Est-ce qu'elle s'était aperçue déjà les jours avant qui passaient? Ça, on ne sait pas exactement. Et puis, il se dit, mais elle va aller à la messe de la Pentecôte. Enfin, en tout cas, il parie sur ça parce qu'il y a justement quand même quelque chose d'assez religieux aussi dans cette relation. Et elle sort effectivement seule cette fois-ci pour aller à la messe de la Pentecôte à l'église Saint-Germain-des-Prés. Il la suit dans le tramway, il la suit dans l'église, et quand la cérémonie est passée, bah, il l'interpelle et tout ça. Alors il est un petit peu intimidé, il veut pas non plus lui faire peur, parce qu'en plus c'est pas une jeune fille qu'on peut... voilà, il sent qu'elle est d'un niveau social supérieur au sien. Il s'est habillé en lycéen pour lui montrer aussi que c'est pas encore un jeune homme parvenu qui a un métier. Et puis elle va accepter de l'écouter, et ils vont marcher jusqu'au pont des Invalides, et voilà, des paroles vont être dites, quelque chose va se passer.
Il y a plus de 7 ans que je vous ai perdu. Il y a plus de 7 ans que vous m'avez quitté sur le pont des Invalides, un dimanche matin de Pentecôte. Vous aviez dit, nous sommes 2 enfants, nous avons fait une folie. Et je n'avais su que répondre. Je m'étais appuyé, plein de désespoir et d'obéissance, à un pilastre du pont. Je vous regardais vous en aller pour toujours. Le quai traversé, avant de disparaître dans la foule, vous vous êtes arrêté et tourné vers moi, longuement. Était-ce pour me dire adieu ? Ou bien pour me faire comprendre qu'il ne fallait pas vous suivre? Ou peut-être aviez-vous une chose encore à me dire? Je me le suis demandé souvent. Et je ne le saurais sans doute jamais. Je n'ai pas compris tout de suite que vous étiez perdu pour moi.
Lettre d'Alain Fournier à Yvonne de Quièvrecourt en 1912, lue par Christian Fromont. Donc ce sont 7 années entre la rencontre que vous racontiez et puis cette lettre.
Oui.
7 années d'obsession finalement pour ce qui n'est pas arrivé.
Oui, oui, ce qui n'est pas arrivé. Et à chaque l'année suivante, il retourne devant le 12 boulevard Saint-Germain et puis il y a personne, elle n'est pas là. Il se renseigne auprès du concierge, il apprend qu'elle est mariée. Là, il a quand même l'espoir assez fou que le mariage ne soit pas consommé, voilà, parce qu'il y a besoin quand même d'un minimum d'espoir pour se dire, mais un jour, elle sera à moi. Après, il demande à un détective privé d'aller enquêter sur elle. Donc, il y a aussi quelque chose d'assez prosaïque.
Ça va assez loin,
hein,
quand même.
Voilà, ça va assez loin. Là, il fait son service militaire et il apprend qu'elle a un enfant. En fait, elle attend un enfant. Et là, il se dit, elle est perdue pour moi. On ne se reverra que dans un autre monde. Hein. Voilà, parce qu'il se dit, elle a perdu cette pureté de jeune fille, puisqu'elle est mariée, qu'elle attend un enfant, qu'il y a quelque chose d'inaccessible. Et en même temps, il continue quand même à rêver d'elle. Et à chaque Pentecôte, à chaque ascension, il y a ce ressassement. Justement, des fois, il se trouve dans des moments où il est très seul, comme pendant son service militaire à Mirande. Et c'est, voilà, continuellement, à chaque moment de cette année, un ressassement et en même temps un besoin de cette grâce, de cette pureté qui l'élève en même temps. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'un grand désir dans sa vie.
Oui. Aussi. C'est aussi quelqu'un qui, du coup, va tomber facilement en dépression. Parce qu'on est déjà obligé de parler des dernières années d'Alain Fournier, parce qu'Alain Fournier meurt très très jeune, à 27 ans. Et finalement, ces dernières années, qui sont quand même des années d'extrême jeunesse, ce sont des années assez difficiles.
Oui, bah, toujours, bah, ce sentiment d'exil, ce sentiment d'insatisfaction, parce que il mène tout, il, ses désirs sont toujours plus élevés que ceux que la vie lui apporte. Et puis, il faut toujours recommencer cette vie quand il échoue à chaque fois aux examens, quand il s'aperçoit que tout le monde fait sa vie. C'est-à-dire qu'Yvonne Kivroko, bah, elle s'est mariée, elle a un enfant. Jacques Rivière, il se marie. Ils ont un enfant avec Isabelle, hein, dont Henri sera le parrain. Voilà, il se dit tout le monde avance et moi, eh ben, je reste un petit peu statique. Et ce qu'il sauve, bah, c'est quand même l'écriture après du Grand Maul, hein, qui est là, du coup, quand même une façon aussi de peut-être solder cette période. Voilà, c'est une façon aussi, bah, d'aller vers cette vie qui est la littérature, hein, qui est quand même ce qui compte le plus pour lui, puisque justement, dans cette rencontre avec Yvonne de Quiberoncourt, il écrit.
Et l'immense succès, quand même.
Voilà, du succès.
Du Grand Maul. Oui. Qui n'a pas le Goncourt, mais qui aurait pu l'avoir. Voilà, ça se joue à pas grand chose,
qui se vend très bien, d'excellentes critiques dans la presse.
Mais paraît-il que Simone, donc cette autre femme, cette dernière passion, oui, de Alain Fournier, a trop fait de lobbying pour qu'il ait le Goncourt, oui, et ça a un petit peu énervé.
C'est jamais très facile de savoir ce qui se passe pendant le déjeuner des Goncourt. Voilà, ça c'est un petit peu ce que dit Isabelle Gallimard, Isabelle Rivière, parce que justement, eux, ils voulaient, avec Jacques Rivière, que ça soit publié à la NRF, mais la NRF était une maison d'édition à l'époque encore toute jeune. Ils n'étaient pas sûrs d'avoir assez de poids auprès des jurés Goncourt, parce qu'il y a quand même déjà des tractations éditoriales, hein, à l'époque. Et puis, Alain Fournier sait qu'il n'est pas quand même très aimé à la NRF, notamment par Gide, et il n'est pas du tout sûr qu'on aurait défendu son roman. Voilà, alors pourquoi il n'a pas eu le Goncourt, voilà, c'est pas...
Mais cette femme, alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot de cette fameuse, oui, Simone?
Simone, alors, c'est donc la cousine de Julien Benda, hein, son prénom c'est Pauline, et c'est une grande actrice de l'époque, qui a 9 ans de plus que lui. Voilà, lui devient en 1912 secrétaire de son mari, qui est Jean-Casimir Perrier, donc qui est l'arrière-petit-fils de Casimir Perrier. Et au début, ça devait être un poste comme ça de secrétaire assez temporaire. Et puis, se met à devenir, bah, le secrétaire du mari et le secrétaire de la femme.
Surtout de la femme,
voilà, parce qu'après, bah, Jean-Casimir Perrier, il a beaucoup d'aventures, il a une carrière politique, voilà, donc apparemment, il est d'ailleurs assez peu préoccupé de ce que fait sa femme, qui, elle, bah, une carrière de comédienne quand même assez importante. Et puis, voilà, ils tombent petit à petit amoureux l'un de l'autre, voilà, alors qu'effectivement, beaucoup de choses les séparent, hein. Il y a une différence de niveau social, et puis, bah, comme va le dire après Isabelle Rivière, c'est une femme qui peut paraître faire partie du grand monde, de tout Paris, être assez artificielle par rapport à l'image qu'on peut-être se faire de la vision que Alain Fournier aurait de la femme. Alors, or, il trouve quand même une beauté à Madame Simone. Hein, voilà.
Cette beauté va peut-être l'accompagner en esprit sur les derniers mois de sa vie, oui, et notamment dans sa fin tragique. Je voudrais qu'on entende, il nous reste très peu de temps, un extrait de la dernière lettre d'Alain Fournier adressée à sa sœur depuis le front de Verdun le 11 septembre 1914.
Je reçois bien tes lettres, ma chère petite Isabelle. Certaines me sont même parvenues au milieu du combat. Je suis en excellente santé. J'espère me rapprocher de Jacques avant peu. Je suis maintenant attaché à l'état-major à cheval. J'ai grande confiance dans l'issue de la guerre. Priez Dieu pour nous tous. Et ayez confiance aussi. Longuement, tendrement, je te serre avec ta Jacqueline dans mes bras. Ton frère, Henri.
Mort d'Alain Fournier, extrêmement jeune, au tout début, finalement, de la Première Guerre.
Oui, du conflit. Bah, lui, le lieutenant, et donc c'est vrai qu'au tout début du conflit, c'est les officiers qui sont allés en première ligne. Donc il y a Charles Péguy, hein, qui meurt déjà le 5 septembre, lui le 22 septembre. Voilà, il fait partie de toute cette élite de l'armée de réserve et puis de l'armée qui a disparu dans les premiers mois de la Première Guerre mondiale. Et alors, en même temps, bah, y a un désir chez lui d'héroïsme, on retrouve chez d'ailleurs d'autres écrivains de la même époque, de se dire, c'est l'aventure suprême, hein, peut-être, d'aller se battre. C'est pas d'ailleurs tant le fait de l'ennemi de l'Allemagne, voilà, il est pas spécialement germanophobe, c'est plutôt de se dire, je vais vivre quelque chose dans mon existence, peut-être qui m'amènera à la mort, peut-être pas.
D'ailleurs, il aurait pu éviter d'aller à la guerre, en fait. On lui avait proposé autre chose, un poste beaucoup plus à l'arrière, et il l'a refusé.
Il l'a refusé parce que, justement, il a ce désir de se frotter aussi à c'est une forme d'héroïsme, d'aventure, un peu comme le front Simone et France de Galles, hein. Même si c'est effectivement moins dangereux dans le Grand Môle. Mais c'est une façon aussi de nouveau d'être dans l'existence, d'être avec les autres hommes qui vont mourir avec lui, hein, puisqu'ils vont être une vingtaine à mourir le 22 septembre, justement à Saint-Rémy-des-Calonnes.
En tout cas, on continuera de parler de tout ça, et en particulier du Grand Maulne, jusqu'à jeudi prochain. Merci beaucoup, Ariane Charton. Votre biographie d'Alain Fournier, elle est disponible en folio Gallimard, et puis vous allez publier en octobre au Mercure de France une anthologie sur les frères et sœurs au Mercure de France, je l'ai déjà dit. Tout de suite, c'est la chronique.
La Compagnie des Œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Une chronique qui nous est proposée aujourd'hui par vous, Philippe Roger, directeur de la revue Critique. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu.
Ça fait longtemps que nous ne vous avions vu, nous sommes ravis de vous retrouver. Alors pour cette rentrée, Critique nous propose un numéro spécial de 200 pages avec un titre un peu énigmatique, Faire collecte. De quoi s'agit-il?
Oui, alors j'espère que le sous-titre éclaire le titre. Archives au pluriel et création, c'est le sous-titre. Donc ce n'est pas, je vous rassure, un numéro sur les collectionneurs, ni sur la collecte de nos données personnelles par les GAFA. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de ce qu'on appelle parfois la révolution du document, c'est-à-dire l'introduction de fragments documentaires dans les œuvres artistiques, littéraires, cinématographiques, etc.
Alors ça c'est une révolution, mais ça date pas tout à fait d'hier. Est-ce que c'est lié à ce qu'on appelle la modernité?
Oui, vous avez parfaitement raison, c'est pas un geste nouveau, c'est un geste qui a une histoire déjà longue, et d'ailleurs le numéro en revisite quelques moments essentiels en suivant le cours du XXe siècle. Ce geste, on le voit s'esquissé chez Charles Reznikov, par exemple, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Reznikov collecte des faits divers dont il fait œuvre poétique, et son préfacier américain, s'appelle Elliot Weinberger, nous présente le livre « Témoignages » qu'on peut lire en français dans la belle traduction de Marc Scholdenko, c'est chez POL. Et ce geste, il se prolonge, il s'affirme chez un Georges Perec, par exemple, dont Georges Didier Huberman commente dans notre numéro le texte « Pensée classée » au fil d'une réflexion qu'il mène sur son propre cheminement intellectuel. On peut aussi évoquer la poétesse et essayiste Anne Carson, qui est encore trop peu connue en France. Et puis, bien sûr, plus près de nous encore, Alexander Kluge, dont nous avons déjà évoqué l'impressionnante chronique des sentiments dans un numéro antérieur de Critique. Et encore, Peter Esterházy, un romancier hongrois qui est mort en 2016, qui fut confronté à une archive particulièrement bouleversante. Le dossier de la police politique hongroise qui lui a révélé que son père était, je cite, « un indique, une barbouze », une sorte d'archive de la honte que Peter Esterházy a intégré dans des caractères d'imprimerie rouge dans son récit revu et corrigé, qui lui est disponible en traduction chez Gallimard, saisissant exemple de ce que Emmanuel Bouju, un de nos auteurs, appelle la contre-archivation. C'est donc une tradition troublante, parfois trouble, que retrace ce numéro. Montage et bricolage, ça n'est pas toujours aussi ludique qu'on le croit. Et il faudrait plus de temps que je n'en ai pour évoquer les arts plastiques ou le cinéma. Par exemple, le cinéma de Basilio Martín Patino, que nous fait découvrir Pedro Cordoba sous le titre « Documenter le franquisme ». Muriel Pic a conçu cet ensemble et elle n'a pas seulement voulu rassembler une sorte d'archive, des recours à l'archive, elle a voulu interroger le sens même de cette révolution documentale, je lui emprunte l'expression, dont rien ne semble devoir arrêter l'onde de choc et qui affecte aujourd'hui des domaines très éloignés et les fait communiquer les uns avec les autres en suscitant par exemple de nouvelles politiques de l'archive et de l'histoire. Arlette Farge, Philippe Artière, ou de nouvelles connexions entre les arts, Hélène Gaudy, Jean-Michel Albirola. Montage, bricolage, prélèvement, collecte, bref, Ces concepts ne sont pas neufs, vous l'avez dit, ils font corps avec la modernité, mais ce qui est nouveau, c'est cette omniprésence du documental qui est en train de subvertir la notion même de document. Avec quelles conséquences intellectuelles, artistiques, voire éthiques, ça valait bien un numéro.
Merci beaucoup Philippe, et j'envoie nos auditeurs à la revue Critique. C'était La Compagnie des œuvres, Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Genepin, Marie-Laure Ciboulet, Antoine Vuilloz, Romain Billet, Anthony Thomasson. Demain, nous revenons avec Philippe Berthier pour parler de la genèse du Grand Maulne. Et tout de suite, c'est les sciences sur France Culture.